C'est juste pour donner une petite réflexion à propos de cette femme qui est très courageuse et qui réclame au président le droit à mourir dignement. Voilà, encore le petit Nicolas a loupé pour une fois une bonne occasion de se montrer intelligent. Évidemment, pour lui, se pencher sur le problème de légiférer l'euthanasie et être maquillé avec le Vatican, ça va lui poser un gros problème. C'est sans doute un trop gros grand écart. Et avec ses petites jambes, c'est sans doute beaucoup trop. Faut-il nous rappeler qu'il y a maintenant 30 ans, on s'est penché quand même sur le droit à la vie et à l'avortement. Il est peut-être temps de se pencher sur le fait de droit à chacun mourir dignement. Enfin, ce sera peut-être l'occasion pour lui de monter pour une fois une commission qui aurait un intérêt. Mais bon, l'avortement, ça doit nous rappeler sans doute trop, mais 68, alors évidemment. Enfin voilà, bon courage Daniel, continue ton émission, elle est super. Ciao.
Salut Daniel, c'est Lionel de Pouillé-sur-Vègre. Je viens de sortir de Pozières sur la D929 dans le Nord. Je suis devant le mémorial canadien et j'ai les larmes aux yeux qui me viennent en pensant à la mort de Lazare. J'ai les larmes aux yeux parce que cet homme italien, Macaroni, s'est battu malgré toutes les insultes sur son nom, sur tout, pour que des gens comme moi, comme Sarkozy, des gens d'origines étrangères, puissent vivre heureux sur le sol de France. J'ai honte, Daniel. J'ai honte en tant qu'ex-officier du premier PIMA. J'ai honte de voir comment on tourne la République en désuétude. J'ai honte d'être français, Daniel. J'ai honte aujourd'hui quand je vois comment on traite les émigrés, soi-disant émigrés, demandeurs d'asile, comment on les renvoie dans leur pays. J'ai honte, Daniel. J'ai les larmes aux yeux, il est 7h20 du matin. Et notre dernier élu est mort. On va soi-disant lui faire un honneur national. Mais à quel titre? Outre le fait que cet homme ait donné son nom, excuse-moi Daniel, l'émotion. Outre le fait que cet homme ait donné sa jeunesse pour la France, je ne remets nullement en cause ce qu'il a fait pour nous. Je remets en cause ce que nos politiques aujourd'hui font à la France. Merci Daniel. Bonne journée à toi et continue.
Bonjour à tous. Je vous appelle pour vous signaler qu'il y aura une grande mobilisation ce samedi à Montpellier qui prendra place à partir de 15h, place de la Comédie, et jusqu'à 18h, voilà, une mobilisation organisée par les Américains de Montpellier pour la paix et la justice qui appelle à une grande mobilisation pour dénoncer la guerre en Irak et pour fêter l'anniversaire terrible des 5 ans d'occupation américaine dans ce pays. Voilà, venez nombreux, on vous attend et good night and good luck.
Oui, bonjour. Je suis en train d'écouter l'émission aujourd'hui jeudi. Je viens d'entendre ce monsieur qui disait qu'il n'allait plus au carrefour des Culis. Mais il ne faut plus aller dans les grandes surfaces en général. Vous payez les produits pas chers, vous achetez de la merde. Vous payez des produits pas chers, mais vous remplissez des caddies avec des yaourts, des crèmes, des trucs et des machins dont vous n'avez strictement pas besoin. Allez dans les petits proxys parce qu'ils sont à côté. Allez dans les petits shoppies parce que c'est dans les moyennes communes. Mais allez au marché le samedi matin, le dimanche matin, et vous verrez, les produits sont pas plus chers, sont même souvent moins chers, de bien meilleure qualité. Vous faites travailler des petits commerçants, des petits artisans, et vous n'engraissez pas tous ces gros pourris de multinationales qui s'appellent Leclerc, qui s'appellent Intermarché, ou n'importe lesquels, tous ils se valent, que ce soit Carrefour ou les autres. Essayez d'y aller le moins possible. Tous leurs produits, ce n'est que de la merde, et en plus, ils s'enrichissent et ils volent des pays qui sont pauvres. N'allez pas dans les grandes surfaces en général et vous verrez, vous vous y retrouverez financièrement quand vous ferez vos comptes. Voilà, c'est Nicole du Morbihan. Allez, au revoir.
Salut Daniel. Juste pour info, demain, grève dans la grande distribution. Et voilà que ce matin à 4h à l'embauche, on nous transmet ce tract par le biais des leaders. Je lis. Communiqué de la direction. Nous avons connaissance d'un appel à un nouveau mouvement de grève pour demain, vendredi 14 mars 2008, organisé par la CFDT et la CGT pour faire suite à la négociation annuelle. Afin que chaque salarié de Système U-Ouest puisse apprécier la situation en toute connaissance de cause, je tiens à vous informer des points suivants. 1. La proposition faite dans le cadre de la négociation 2008 va continuer à faire progresser votre pouvoir d'achat et se situe parmi les meilleures pratiquées sur la région. 2. Il n'y aura pas de nouvelles négociations, quelles que soient les manifestations organisées. 3. Ce qui est sûr pour l'avenir, si l'entreprise devait être bloquée, et quel que soit le site, les investissements prévus sur tous les sites logistiques seront immédiatement et définitivement arrêtés. Les embauches de nouveaux salariés seront aussi immédiatement gelées. Je présenterai au conseil d'administration de SUO, début avril, l'ensemble des modalités pour entériner les changements de notre politique d'investissement. À chacun de prendre la mesure des enjeux et à chacun maintenant de prendre ses responsabilités. En ce qui me concerne, en tant que directeur général, la détermination sera sans faille. Voilà, salut à tous. C'était Angéline en Vendée.
Salut, c'est Sophie. J'ai écouté l'émission sur Carrefour hier après-midi et je voulais vous faire entendre ce que Carrefour nous dit du développement durable sur son site internet. Alors il faudrait peut-être leur apprendre que le développement durable, c'est surtout prendre en compte les gens qui travaillent pour vous. Mais bon, quand même, je vais vous faire écouter ça, c'est beau.
Depuis 1998, Carrefour s'est associé au WWF pour faire avancer lui-même sa démarche de développement durable. C'est ainsi que nous avons fait, par exemple, des opérations de sensibilisation autour du bois, lorsque Carrefour a été le premier à mettre en place un bois exotique qui était issu de forêts gérées durablement à la place du teck. Nous avons commencé à mettre en place dans les magasins un choix pour le consommateur et notamment des sacs de caisse réutilisables. Dans ce cadre-là, le WWF est allé jusqu'à former des hôtesses de caisse pour leur faire comprendre les enjeux et pour qu'elles-mêmes puissent sensibiliser à leur niveau et dans le cadre de leur activité les consommateurs pour qu'ils prennent des sacs réutilisables. Et cette année, en avril, grâce à nous, l'ensemble de nos bénévoles et grâce à vous dans les magasins, nous allons monter une nouvelle opération autour du calcul d'empreinte écologique.
Voilà, donc il faudra peut-être leur apprendre ce que c'est le développement durable chez Carrefour. Allez, au revoir.
Merci, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, et pardon pour les messages que nous n'avons pas le temps ni la place de passer. Aujourd'hui, ou plutôt mardi prochain, notre président de notre République devrait, en principe, retourner sur le plateau des Glières. Vous vous souvenez, ce haut lieu de la résistance, l'an passé, 4 jours avant son élection, il y était allé. Et nous, on y était allé juste après son élection, le 13 mai, pour rencontrer des résistants, des gens du coin, indignés que le président de notre République ait omis de les prévenir lors de sa visite. Une occasion pour nous de découvrir cet endroit et la mémoire de ces hommes-là. Donc aujourd'hui, on va les retrouver, retour en arrière sur donc ce 13 mai de l'an passé. Chomsky, on parle de Chomsky, on a parlé beaucoup de Chomsky hier soir à Bordeaux au cinéma Utopia avec Normand Baillargeon. Ce soir ce sera à Toulouse que Normand Baillargeon sera pour présenter des extraits de Chomsky et compagnie au cinéma Utopia. Et nous, on sera lundi 17 mars à 21h30 à Paris à l'espace Saint-Michel avec Olivier Azam et Normand Baillargeon. Voilà, vous savez tout. Encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37 et retour sur les Glières.
Ouais, je suis en train d'écouter l'émission là sur le l'ex-vigile de Carrefour et j'ai un petit peu le même sentiment que lorsque j'ai vu sur Arte Le Monde selon Monsanto avec l'interview des mecs qui bossent directement ou indirectement pour Monsanto. Et je crois que ça nous ramène pas mal au bouquin de Chomsky. C'est vrai qu'en ce moment, Chomsky, je suis à fond dedans, la théorie des bonnes intentions, quoi. Je veux dire, le roi des enculés. Tu peux le faire tchatcher, il a toujours une bonne intention derrière, il croit toujours qu'il fait le bien, quoi. Et je crois que c'est ça le plus dangereux et le plus sombre chez l'être humain. Allez, ciao, vive, portez-vous bien.
Voilà, il ne reste plus que quelques jours pour signer la pétition de soutien à Christian Vélo. Christian Vélo, c'est le chercheur qui était invité sur le plateau de Arte mardi soir à propos de Monsanto. Voilà, depuis qu'il a ouvertement pris position contre les OGM, il est sommé de déménager au mois de mars du CNRS et il est remercié pour fin 2009. Donc, signer la pétition, vous pouvez la trouver sur Science Citoyenne, au pluriel, sciencecitoyenne aussi.org. Et voilà, merci beaucoup.
Oui, c'était pour répondre, enfin pas répondre, mais parler au monsieur qui avait volé du pâté et du jambon et qui est bébé d'autres choses encore. Effectivement, c'est pas très bien de voler, mais heureusement pour moi, à qui c'est arrivé aussi, un de mes très bons amis m'a dit, me sentant coupable de cette action, voler les voleurs, c'est pas voler. Alors, c'est pas grave.
Ça fait quand même impressionnant, le petit trou noir du revolver à hauteur de votre nez. Hein, ça, ça marque, ça.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, alors ?
Parce que je suis contre la récupération qui est faite par M. Sarkozy. On n'a pas le droit de jouer avec les morts. Surtout quand on sait le prix qu'ils ont payé pour notre liberté, à nous.
Salut, c'est Daniel Mermel, j'y suis avec François Ruffin. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
Flight number 2, arriving from
Newport. En haut de sa voix, devant les tombes de Morette, où reposent tant de héros du maquis des Glières, M. Francis Queguet, vice-président du Conseil, est venu commémorer pieusement le souvenir de ceux qui, voici 2 ans, tombèrent sous les balles allemandes. Ce jour-là, parce qu'une poignée de jeunes Français proclamèrent à la face du monde que la résistance française n'était pas une chimère, le plateau des Glières est entré dans l'histoire. Ce fut, selon les paroles de M. Gay, résistant de 40, l'avant-garde combattante d'une immense armée.
Et de son côté, Nicolas Sarkozy avait choisi le plateau des Glières en Haute-Savoie pour effectuer son dernier déplacement de candidat. C'est au lieu de la résistance française qui devrait lui servir en cas de victoire de but de pèlerinage annuel. Françoise Hugues et Frédéric Mignard étaient avec lui.
Il y a d'abord la majesté du paysage. Le plateau des Glières est un haut lieu de la résistance. Ici s'est jouée une bataille entre quelques centaines d'hommes face aux milliers de soldats de l'armée d'occupation. Un tel endroit ne peut laisser insensible un candidat à la présidentielle.
On m'a dit, mais pourquoi vous parlez tant de l'histoire de France ? J'ai dit, mais je suis candidat pour la présidence de la France. Si un candidat à la présidence de la République française ne parle pas de la France, ne sait pas parler de la France, de quoi doit-il parler ? La France, on n'en parlait plus assez.
Et il promet, s'il est élu président de la République dimanche, qu'il reviendra ici chaque année comme en pèlerinage. C'est dans ce lieu symbolique que Nicolas Sarkozy achève une campagne qu'il juge longue, dure et harassante.
La République, je viendrai tous les ans ici, au plateau des Glières, pour honorer la mémoire de Tom Morel.
Il vient rendre hommage aux combattants de la résistance.
Taratata, il sait même pas ce que c'est, la résistance, il n'en sait rien.
Là, vous avez une croix de Lorraine, mais finalement, l'héritier de la croix de Lorraine, le gaulliste, c'est Sarkozy.
C'est... Oh là là. Aïe. Non, le Charles de Gaulle de 40, hein, c'était autre chose que le Sarkozy de maintenant. Oh non, je vous en prie. Hein. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Charles de Gaulle, c'était un jour de juin 1940. J'étais avec un groupe de femmes. Nous avons vu défiler devant nous ce qui restait de l'armée française. Des hommes donc désarmés, quelques-uns blessés, quelques-uns avec des vêtements souillés, en guenilles, et qui étaient encadrés par les Allemands qui venaient d'occuper la ville. Et alors nous avons vidé toutes nos armoires ce jour-là. Nous avons distribué la nourriture à tous ceux qui passaient devant nous. Et dans ceux qui passaient devant nous, il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait... Et je vous assure, c'est un souvenir. J'ai vidé mon dernier sac de sucre cristallisé dans le casque d'un noir qui disait « Moi aussi j'ai faim ». Et c'était vraiment un spectacle de désolation pour nous. Et alors à côté de moi, il y a une dame qui est arrivée et qui a dit « Oh, il paraît qu'il y a un général. Je ne sais pas encore comment il s'appelle, mais il a annoncé qu'on n'avait pas perdu toute la guerre. Alors il faut essayer d'attraper la radio, mais on n'en avait pas à ce moment-là. On n'avait pas les transistors comme on les a maintenant. Hein. Il fallait attendre qu'on nous remette l'électricité.
Mais là, vous pensez qu'on a perdu une bataille et la guerre ou...
Oh non, non, on ne perd jamais complètement. Vous avez bien vu, je vous assure que là, en 40, comme moi, je voyais défiler ce qui restait de l'armée française. Jamais je n'aurais cru qu'après, on vivrait la libération et tout ça. Hein. Parce que vraiment, on était au fond du trou. Oui.
C'est vrai, vous avez donné un cours, là. Il y a du monde qui s'est rassemblé pour vous écouter.
Oui, mais j'ai dit...
Alors, récupération, mais c'est une vieille histoire, la récupération, c'est une vieille histoire que la récupération de l'histoire, à croire que l'histoire ne sert qu'à être récupérée, servir la mémoire ou se servir de la mémoire, c'est une vieille histoire. Sauf que là, tout de même, ça leur est resté un tout petit peu en travers de la gorge. Qui, eux ? Eh bien, les résistants, ceux qui sont encore vivants et qui n'ont pas oublié qu'ils se sont battus là, sur ce plateau d'Aiglière, en 1944, hein, au lieu, comme on dit, de la mémoire de l'histoire et surtout de la résistance française, où les uns aux côtés des autres, gaullistes comme communistes, et avec eux aussi des Espagnols et d'autres encore se sont battus pour sauver quelque chose de notre pays, de notre identité, de notre honneur et de notre liberté. Et aussi ont-ils contesté à M. Sarkozy le droit de récupérer un symbole historique au service de son ambition personnelle dans une mise en scène détestable à quelques heures du scrutin. Fin de citation. Mise en scène détestable, c'était très réussi, cet homme qui, dans ce grandiose paysage, avance seul pour aller honorer, commémorer les héros de cette résistance. Sa voiture, son 4x4, était restée bien planquée dans la forêt voisine, dans le bois voisin, et les journalistes, très très nombreux, photographes, caméramen, étaient parqués. Cette fois-ci, ça avait marché beaucoup mieux qu'en Camargue. Il n'y a pas eu de plan off. C'était le 4 mai. Et une semaine plus tard, le 13 mai exactement, eh bien un certain nombre de personnes se réunissaient sur ce plateau, se retrouvaient sur ce plateau autour d'un certain nombre de résistants, ceux à qui cette histoire était passée en travers de la gorge. C'est avec eux qu'on va passer cette heure de là-bas si j'y suis, autour de cette très très belle devise inspirée de Lucie Aubrac. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
Allons, enfants de la fratrie, des pages d'histoire à espérer contre nous, de la tyrannie, des étendards à élever, entendez-vous dans leur campagne rugir leurs féroces slogans, et dans nos villes et nos campagnes, nos espoirs réduits à néant. Allons, enfants de la fratrie, des belles victoires à partager contre nous, de la tyrannie, du désespoir à supporter. Entendez-vous aux armes, citoyens. Allons, enfants de la fratrie, des contre-pouvoirs à exercer contre nous, de la tyrannie, des jours de gloire à honorer. Entendez-vous dans leurs discours surgir sur leurs funestes dessins et dans nos villes et leurs faubourgs. La misère gagnée du terrain, allons enfants de la fratrie. Des pas vaincus rêvant encore contre nous de la tyrannie, de la loi du plus fort. Entendez-vous aux armes, citoyens.
Plateau des Glières, 13 mai 2007.
Là, vous êtes en train de pique-niquer, vous mangez du taboulé, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça.
Et vous dites ?
Que je suis un électeur de François Bayrou. Et voilà, que je suis chrétien et attaché aux valeurs de la République, notamment à ce qui a été fait dans ce pays il y a 60 ans, autour du Conseil national de la Résistance. Et je crains que, avec le retour d'une droite conservatrice comme jamais on l'a vu depuis 60 ans, ce consensus républicain qui a reconstruit le pays, qui a créé cette prospérité, cette solidarité nationale, risque de partir en lambeaux. Voilà. Quelque part, ça y est, le grand plongeon dans l'eau glacée de la contre-révolution néolibérale. Ça y est, la France a décidé de le faire. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps ? C'est peut-être parce que à gauche, en France, on avait une critique radicale de l'économie de marché avec un parti communiste de gouvernement. Et à droite, on avait le gaullisme social. Et ces deux forces-là, à droite et à gauche, quelque part collaborer ensemble pour éviter ce qui est arrivé dimanche dernier.
Et comment vous expliquez que Sarkozy soit venu ici vendredi dernier ?
Je ne me l'explique toujours pas, j'ai été très choquée de l'apprendre. J'arrive pas à faire le lien entre Sarkozy et le plateau des Glières.
En quelque sorte, c'est l'hommage du vice à la vertu, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. Dans une démocratie, chacun est libre de voir midi à sa porte, sauf qu'il y a des midis qui sont plus chaleureux que d'autres, voilà.
C'est maintenant, la parole va être à Walter Bassan, je le présente, il est jeune, c'est un jeune résistant. Il est né en 1926, je vais lire un peu son pedigree. Il était de la compagnie FTP, arrêté par la ministre le 23 mars 1944, déporté au camp de Dachau, après un transit par la prison de Saint-Paul, si je me souviens bien, on a discuté ensemble. Croix de guerre, médaille militaire, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier des Palmes académiques.
Walter Bassan est monté et grimpé sur la table de pique-nique.
Bon, je vais vous lire l'appel lancé par les résistants à l'occasion de l'anniversaire du Conseil national de la Résistance. Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre 1940-1945, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale, culturelle. 60 ans plus tard, nous appelons en conscience à célébrer l'actualité de la résistance pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Sécurité sociale et retraite généralisée, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée ? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la démocratie et la paix. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.
Voilà, longs applaudissements, mais savez-vous bien, Walter Bassan lit ce texte qui date de 2006, pardon, et qui était signé de Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe de Chartres, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Crigel Valrimont, Lise London, Georges Segui, Germaine Tillon, Jean-Pierre Vernan et Maurice Voutet, en hommage et à la mémoire, évidemment, de ce Conseil national de la Résistance, de ce programme du Conseil national de la Résistance, élaboré durant la Résistance par toutes les obédiences qui résistaient dans notre pays, comme elles résistèrent, ces obédiences, sur ce plateau des Glières. On voit qu'il y a comme une sorte de hiatus entre, on peut voir en tout cas une sorte de hiatus entre la démarche du candidat Sarkozy devenu notre président et l'esprit de ce Conseil national de la Résistance. On est le 13 mai sur ce plateau avec ces anciens résistants et combattants et un public venu contester ce qu'on pourrait appeler un détournement de mémoire.
Vous portez les glacières, là on se rend au monument qui avait été inauguré par Malraux. Mmh. Vous portez les glacières pour le pique-nique. Vous avez entendu le discours tout à l'heure?
Non, on est garé très très loin, donc on a remonté à pied, on n'a pas entendu le discours là.
Bon. C'était le discours du Conseil national de la Résistance qui réclamait entre autres sécurité sociale et retraite généralisée, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation. Ça fait écho à la situation contemporaine pour vous?
Ah bah oui, puisque c'est tout ce pourquoi les résistants se sont battus tout de suite après-guerre, et c'est tout ce qui est remis en question actuellement, c'est tout ce qui risque de disparaître.
Vous, c'est votre inquiétude que ça?
Ah oui, là, c'est une très grosse inquiétude, oui. Tout est en train de partir, maintenant ça va tout être à appel à des fonds privés, il faudra qu'on mette de l'argent, chaque individu devra se débrouiller tout seul pour s'assurer sa sécurité sociale, enfin sa propre sécurité sociale et sa retraite, il n'y aura plus du tout de solidarité à ce niveau-là. Donc ceux qui pourront pas, auront pas. Voilà.
Et vous pensez pas que Nicolas Sarkozy, c'est le candidat qui va venir rompre avec les féodalités économiques?
Ah non, ça je crois pas. Tous ses copains, c'est les grands patrons, donc ça m'étonnerait qu'il rompe avec les féodalités économiques. Non, je pense qu'il va plutôt les accentuer. Il va leur donner un pouvoir politique en plus. Ils ont déjà le pouvoir de l'argent et ils auront le pouvoir politique. Déjà, moi je suis incite en maternelle et je crains beaucoup sur la maternelle. Je pense qu'il va la faire disparaître. Et que les familles qui auront de l'argent mettront leurs enfants dans des structures privées. Et que les autres, eh ben, ils ne seront pas socialisés avant 5 ans. L'école obligatoire sera à 5 ans et qu'il n'y aura plus, pour le Pékin moyen, entre guillemets, il n'y aura plus.
Et ça, c'était indiqué dans son programme?
Dans son programme, il dit des beaux discours. Il dit qu'il va être attentif à l'éducation nationale, mais je ne le crois pas. Disons que tout ce qui se prépare depuis pas mal d'années, c'est pas ça, quoi.
Donc là, vous soufflez un peu parce que ça grimpe?
Ça grimpe, voilà. Voilà, donc j'ai emmené toute ma tribu. Mes 4 enfants, oui.
Il faut manger à plus de 500 mètres du monument, apparemment.
Oui, ça, c'est le respect. C'est ce qu'il n'a pas fait le 4 mai, oui. Lui, il n'a pas respecté les lieux. Lui, il était avec sa horde de journalistes. Il a fait semblant d'être seul et de se recueillir pendant une minute. Et après, c'était envahi. Il n'y avait plus aucun respect de la mémoire de tous ceux qui sont morts ici.
Voilà. Je suis très heureux d'être ici.
Nous aussi.
Voilà. Et je trouvais qu'il n'y avait pas plus beau lieu et plus beau symbole pour terminer cette campagne.
4 mai 2007.
Il était question de la France.
déterminé dans le souvenir de Tom Morel, c'est ce département était le premier qui s'est libéré seul.
Tout à fait, exactement.
C'est à partir des Glières que les Alliés ont compris que la résistance française, ça existait.
Exactement.
Ah, vous avez compris pourquoi j'ai voulu être là. Hein, hein. Eh bien, voyez-vous, si je suis élu président de la République, je viendrai tous les ans ici, au plateau des Glières, pour honorer la mémoire de Tom Morel.
Tom Morel, c'est le chef, en effet, c'est la figure historique de cet épisode héroïque. Mais il est mort, Tom Morel. Et donc, c'est sur sa tombe que Nicolas Sarkozy est venu s'incliner. Mais, vous savez, dans la précipitation d'une campagne aussi fébrile, on avait oublié de prévenir les résistants encore vivants et qui se seraient bien empressés de venir. Nul, évidemment, n'empêche quiconque de monter aux Glières, mais un certain nombre de ces résistants, peut-être, aurait interpellé le candidat Sarkozy encore à ce moment-là sur sa politique, sur son projet, etc. Il n'est peut-être pas trop tard. En tout cas, voici l'un de ces résistants. On l'a déjà entendu lire la déclaration en hommage au Conseil national de la résistance. Il nous en dit un petit peu plus, Walter Bassan.
Personne ne s'attendait à autant de monde. Non, mais c'est un succès, quoi. Non, mais il y a des citoyens, ça existe toujours, hein. Il y a toujours un paquet de citoyens, je suis content.
Là, vous venez de descendre de la table de pique-nique qui vous a servi d'estrade pour le discours. Vous avez lu le discours pour les 60 ans du Conseil national de la résistance.
Oui.
Mais alors, quel est le lien entre ça et la venue de Sarkozy? Quel est le lien entre le...
Oui, alors, bon, il vient s'incliner sur les morts de la résistance. Sur l'idéal de la résistance, et il a un programme politique qui tourne complètement le dos au programme du Conseil national de la résistance. Vous croyez qu'il y a quelque chose, que c'est normal? Et en plus, alors ça pour moi c'est la cerise sur le gâteau, c'est que le 4, il est ici pour s'incliner sur le mémoire des résistants, etc. Et la cérémonie du 8 mai, il continue à voguer sur les flots au lieu d'être à l'Arc de Triomphe pour honorer tous ceux qui sont morts et qui ont permis que la France retrouve sa liberté, son indépendance. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose de déplacé, non?
Et en quoi, d'après vous, le programme de Sarkozy, il est contre...
Je crois qu'il l'a redit assez souvent, non?
Si on reprend le texte, si vous relisez, à quel moment de ce texte...
Oh, vous savez, la sécurité sociale qui est attaquée de tous les côtés, on essaye de la vider de son contenu. Venir nous dire que les employeurs ont des difficultés pour faire tourner leurs machines et qu'ils ne peuvent donc plus satisfaire de façon correcte leurs salariés, alors que toutes nos lois sociales datent de 1945 et en 1945, la France était complètement ruinée. Dans ce qu'on a pu faire dans une période de ruine, je crois qu'on peut le faire dans une période où toutes les entreprises fonctionnent, enfin on peut les faire fonctionner. Contrôle des féodalités économiques, le contrôle de toutes ces entreprises nationales ou internationales qui ne voient que leur propre intérêt, hein, qui n'hésitent pas à délocaliser, qui n'hésitent pas à mettre les gens au chômage, etc. C'est ça notre...
Et vous croyez pas alors que c'est Nicolas Sarkozy qui va venir combattre les féodalités économiques?
Oh, il est leur porte-voix, pratiquement. Enfin, ses meilleurs amis, c'est qui? Il le dit lui-même. Hein, c'est Bolloré, c'est Bouygues, c'est Lagardère, c'est tous ces gens-là. Et vous croyez que ces gens-là s'occupent vraiment du devenir des salariés? Hein, de l'amélioration des conditions des salariés? Ah ben non, moi je crois que... Hein, nous n'acceptons pas les principaux médias soient désormais contrôlés par les intérêts privés. Moi je l'ai subi, le nazisme. Hein, parce que j'ai connu le camp de Dachau, j'avais 17 ans et demi. Alors, vous voyez, je crois quand même que j'ai payé assez cher. J'ai un frère qui est mort, hein. Puis j'en ai un autre, mon frère aîné, qui lui se trouvait au plateau des Glières. Alors, vous savez, je crois que je crois que j'ai le droit de dire ce que je pense.
Et donc, vous pensez que cet appel du Conseil national...
Il est toujours valable. Il est toujours valable pour nous. On doit toujours se battre là-dessus.
Vous pensez que ça aurait écorché les lèvres de Nicolas Sarkozy de le prononcer, de le lire?
Oh, je crois qu'il ne serait même pas venu à l'idée de le lire. Alors ça m'étonnerait alors. Hein. Je pense que son objectif principal, c'est de combattre et d'éliminer tout ce que ce Conseil national de la résistance a élaboré et a fait mettre en application dans les années qui ont suivi la fin de la guerre. Voilà.
Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national, en vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises, et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil national de la résistance, en attendant le déclenchement des opérations. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de pensée que pour la guerre, il n'est de chant que ceux de la résistance.
Donc il y a deux ans, nous justement, on avait célébré l'anniversaire du PNR à Annecy.
Programme national de la résistance.
Voilà, pardon. Justement avec Constant Pézan. Et on avait rappelé donc ce que c'était que l'État social et qui était né justement en 44. Et déjà à ce moment-là, on dénonçait le fait que l'État social allait tout doucement disparaître. Je crois qu'il y a une relative incompatibilité entre ce qu'on veut au niveau d'État social, c'est-à-dire apporter l'éducation, la santé, les droits fondamentaux humains. C'est clair que le programme néolibéral, c'est à chacun pour soi, c'est les plus déshérités, tant pis, il y aura un minimum, un tout petit minimum pour les plus déshérités. Ce qui est très dangereux, c'est qu'ils vont être capables, je dirais, de découdre l'histoire. Il faut empêcher que les libéraux nous découdent l'histoire et enlèvent l'histoire aux gens qui l'ont faite. En plus, là, ils sont plus nombreux à être encore vivants et on peut pas accepter qu'ils leur enlèvent leur histoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle démonstration de ce qu'on est capable de faire en termes de vigilance. Immédiatement, quand on a su ça le vendredi matin, je crois que les internets, les téléphones se sont mis en route parce qu'on pouvait pas admettre ça. C'est pas possible.
Vous pouviez pas admettre que Sarkozy vienne.
Il vient alors qu'il était candidat, même pas en prévenant les résistants. D'ailleurs, déjà pour commencer, ça en dit long sur l'idée de récupération. Parce que s'il avait pas voulu récupérer, il aurait pris contact avec les résistants.
Je voudrais quand même rappeler que sont morts sur ce plateau beaucoup de jeunes Espagnols qui étaient des réfugiés politiques, des sans-papiers. Hein ? Et moi, c'est à ça que j'ai immédiatement pensé quand j'ai su qu'ils venaient entre les deux tours. J'ai pensé à la mémoire de ces jeunes Espagnols sans papier qui étaient des, enfin, tout ce que Sarkozy met comme ennemi, l'étranger, le sans-papier et...
Et le gauchiste.
Oui.
tout ce qui s'oppose. Je dirais, en plus, c'est quand même...
Quel lien vous faites entre l'affaiblissement de la mémoire historique et le recul social?
Ben justement, c'est parce qu'on ne sait pas, enfin, j'irais, quand on discute souvent avec les jeunes, même les moins jeunes, ils ne savent pas que ce sont les combats, la lutte des gens en permanence qui a permis d'avancer et de conquérir tout ce qu'on avait eu. J'irais, vous discuter avec les jeunes générations, pour eux, il était logique qu'on ait la sécurité sociale, qu'on ait la protection des chômeurs, qu'on ait toute cette protection que Sarkozy appelle assistanat, et ça c'est grave. Aujourd'hui, il faut répéter, redire effectivement que ces acquis, nous les avons obtenus par la lutte. Il faut qu'ils sachent qu'on va résister. Ça commence bien déjà aujourd'hui.
Ah là là, j'ai rattrapé quoi ?
Non, monsieur Sarkozy, les combattants des Glières ne sont pas récupérables. Voilà, c'était ce rassemblement sur les lieux des combats de 1944. Le 13 mai dernier, il y avait donc un certain nombre de résistants, d'anciens résistants, de déportés. Pour dire tout cela, les combattants des Glières ne sont pas récupérables. Non pas évidemment qu'il ne s'agit pas d'empêcher, de contester le droit de quiconque de rendre un hommage personnel et discret, disent les ancien, aux hommes tombés dans ces lieux, nul ne conteste le droit de rendre hommage public dans une fonction officielle non plus, mais ce qui est contesté évidemment, c'est une récupération, puisqu'on le voit, entre les valeurs défendues par ceux de la résistance et ceux, le programme du président, de l'actuel président de la République, il y a une sorte de hiatus. Alors, on a vu Walter Bassan, déporté, résistant, rescapé de Darao, qui vient de parler. Et voici un autre résistant, un ancien des Glières, Constant Pessan.
Moi, je vais m'asseoir un moment là, hein, ouais. Parce que...
Ah oui, donc on s'est pas mis, on n'est pas juste en face du monument des Glières, inauguré par Malraux.
Par Malraux. Grand moment. Par Malraux, grand moment. Ah oui. Ça, on a pu se rendre compte des talents dans le décor et tout. Il a été formidable. Émouvant comme pas possible. Et puis enfin, il avait le sens du mot et de l'intonation. C'était vraiment d'un dramatique incroyable.
Bassan va dire à la cité de Sparte que ceux qui sont tombés ici sont morts selon sa loi. Bassan va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. Comme tous nos volontaires depuis Bir Hakeim jusqu'à Colmar, comme tous les combattants de la France en armes et de la France en haillons, nos camarades vous parlent par leur première défaite comme par leur première victoire, parce qu'ils ont été vos témoins.
C'était l'hommage que vous attendiez après?
Nous, on n'a jamais rien attendu. Hein. On est toujours surpris quand ça arrive. On dit, mais c'est formidable. Peut-être bien, quoi. Alors, c'est quand on a participé à l'histoire, on ne s'en rend pas compte pendant qu'on le fait. C'est après, on nous dit, mais oui, c'est historique. Ah bon, d'accord.
Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du nom. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui.
Ah oui, oh, il y a eu en particulier une séquence, à un moment donné, un coup de vent, il perd ses papiers. On va dire, bah, c'est, mais il était quand même formidable, parce que il est bien resté une bonne minute en suspens, on était tous là, il cherchait ses papiers, et il a redémarré comme si rien n'était. Moi, j'ai admiré, parce que ça me serait arrivé à moi, je crois que je n'aurais pas surmonté la difficulté. Mais t'étais quand même, c'est quand même un grand bonhomme. Hein.
Excusez-moi de vous interrompre. Il y a Robert, il prendra la parole là-bas juste pour expliquer aux gens comment ça va se passer.
On va y aller.
Ils sont là-bas.
C'est qu'ils entendront le glas que toutes les églises des vallées ont sonné un jour pour vous et qui sonne maintenant dans l'éternité. Souvenez-vous de nous qui étions des Glières. Sans rien dire, ils penseront. Bonne nuit, dormez bien. Dormez sous la garde que monte autour de vous la solennité de ces montagnes. Et dans la nuit sans retour, les mains suppliciées de celui d'entre vous qui mit le plus longtemps à mourir caresseront sur ma tête rasée la trace de mes cheveux blancs.
Je voudrais mourir debout. Dans un champ soleil, non dans un lit au drap froissé, à l'ombre close des volets, par vous ne vient plus une abeille. Entendre tout doucement la porte et le chuchotement, sans objet des gens et des vieilles et des
madame, vous avez...
Et ce petit insigne, il était celui de mon frère. Il faisait partie d'un groupe de résistants en Lorraine, dont je suis originaire.
C'est la Croix de Lorraine, d'ailleurs, que vous avez.
Et qui s'appelait, donc, ben oui. Et alors, lui, il faisait partie d'un groupe de résistants. Et quand les réunions se tenaient chez ma mère, elle cachait les petits papiers où il y avait des renseignements dans les boutons électriques. C'était une demi-sphère en cuivre, vous savez. Et alors, elle mettait là-dedans tous ces petits bouts de papier où il y avait les adresses des uns et des autres, les prises de rendez-vous ou autres. Et alors, eux faisaient ces petits insignes-là. Et moi, ils m'en ont donné un. Moi, j'étais dans le Nord à cette époque. Et je l'ai porté tout le 43-44 jusqu'à la Libération.
Vous l'avez porté publiquement ?
Publiquement, je le mettais sur le revers de mon manteau ou de ma veste. Personne ne m'a jamais rien dit, ni les Allemands ni les Français. Moi, je faisais les tracts de mon côté, dans la région où j'étais. Je distribuais les tracts, puis je les glissais sous le lino de ma mansarde. Puis un jour, j'ai eu la Gestapo qui est arrivée à 2h du matin. Il parlait que je cachais un résistant, enfin non, un évadé, paraît-il. Mais moi, c'était mes tracts que je cachais. Eux, ils ont fouillé partout, jusque sous mon lit, pour voir s'il n'y avait pas le résistant. Puis moi, je faisais, comme ça, avec mes pieds, je faisais lourde, pour bien aplatir mes tracts, qu'il n'ait pas l'idée de les trouver.
Parce qu'ils se trouvaient où, vos tracts ?
Ben, sous le lino sur lequel j'étais, debout. Mais ça fait quand même impressionnant, le petit trou noir du revolver à hauteur de votre nez. Hein, ça marque, ça.
Voilà, c'était ce dimanche après-midi sur le plateau des Glières. Il y a les célébrations pompeuses, les récupérations, bien sûr, que ces pages d'histoire ont été récupérées depuis 60 ans dans tous les sens, par toutes les factions, par toutes les politiques, par toutes les idées. C'est le sort de tous les événements que d'être récupérés selon les nécessités du présent. Mais il y a des exploitations qui peuvent être contestées, et là, c'était le cas ce dimanche-là. Parmi les gens qui se trouvaient là, autour de ces résistants, ces anciens combattants, et il y avait John Berger, c'est un écrivain d'origine anglaise, et je lis sur le site qui lui est réservé, un écrivain engagé.
John Berger, vous êtes écrivain ?
Oui.
Vous êtes anglais, mais vous résidez maintenant depuis une trentaine d'années en Haute-Savoie.
Oui.
Et vous êtes présent aujourd'hui sur les sites des Glières.
Oui, je suis venu spécialement pour cette occasion. Et ce qui me semble si choquant par cet essai de récupération, c'est le suivant. Dans le nouvel ordre économique mondial, qu'on peut appeler une espèce de tyrannie,
Tyrannie.
Et tout le projet de M. Sarkozy, c'est de nous amener absolument au cœur de l'âme de cette nouvelle ordre tyrannique. OK. Une de les choses les plus frappantes dans l'idéologie de cette tyrannie, c'est la suppression de l'histoire. Le passé n'existe plus comme quelque chose d'important. En même temps, bien sûr, l'avenir, à part de l'avenir dans le court terme, le court terme de maximisation de profit en quelques années, en quelques mois, en quelques jours, en quelques heures. Mais l'avenir, comme un vrai avenir, n'existe plus. Ni le passé, ni le futur. Donc, on vit dans le immédiat, ça c'est le média de consommation.
Mais justement, Sarkozy, il a même évoqué les croisades, il a évoqué Blum, il a évoqué Jaurès, il a évoqué la révolution.
Oui, absolument. Mais le sens de l'histoire n'essaie pas d'évoquer les noms. Ça, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est les efforts des gens. Pour la plupart, les gens inconnus, anonymes, qui ont donné toute leur énergie, pas mal, quelquefois leur vie, en solidarité pour les causes. Et ces causes qui sont nées historiquement, qui fleurissent, quelquefois, qui meurent avec les grands mouvements de l'histoire. I mean, l'histoire dans le sens que j'appelle, c'est une question de un sens de le destin humain sur cette planète. C'est pas pour faire quelques références à Blum ou Jaurès. Ça, c'est pas l'histoire. Ça, c'est simplement comme on met le portrait de Van Gogh pour vendre les fenêtres. Et c'est le même espèce de astuce. Oui. Ici. C'est vraiment un site historique. L'histoire est toujours, toujours incroyablement compliquée. C'est pas quelque chose qu'on peut dessiner avec un crayon comme ça. Maintenant, qui est quelque chose tellement profond dans la vie humaine. Et qu'est-ce que remplace ça maintenant dans le nouvel ordre mondial, tyrannie, comme je dis, il n'y a qu'une chose. Et ça, c'est-à-dire la recherche, la maximisation du profit. C'est la seule valeur qui détermine les choix vraiment profonds, selon l'idéologie de cette tyrannie. Oui? Donc, parmi les autres choses, c'est une vision du monde tellement pauvre. Bien sûr, ça produit la richesse pour un peu de personnes, mais comme expression de l'esprit humain, c'est tellement pauvre.
Avec Annecy, et bien à saluer au passage M. Vincent Auriol, qui, dans un geste de piété à l'égard de la résistance, a tenu à venir s'incliner devant les tombes du cimetière de Morette, où dorment les morts du combat des Glières. C'est dans ce paysage désolé que les courageux révoltés du maquis des Glières soutinrent le siège de la milice et des SS. Une pierre, désormais, gardera leur nom, ce nom que portent aujourd'hui des veuves et des orphelins. Leçon émouvante qui doit rester au cœur de chaque Français. Leçon, a dit le président de la République, pour chaque jeune de France, à qui la vie héroïque de ses aînés des Glières révélera le grand idéal de discipline et de volonté.